Vous écoutez RTL.
Il est 18h. RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel.
Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos. Et à la une, opération déminage au sommet de l'État au lendemain des violences du 1er mai. Le gouvernement défend l'intervention des CRS hier à Paris. La priorité était d'éviter des morts et des blessés. Face aux critiques de l'opposition, Gérard Collomb affiche sa fermeté. Il promet encore plus de policiers lors des prochaines manifestations et des poursuites contre ceux qui appellent à l'insurrection. Alors, dans RTL Soir, on vous donnera les dernières informations sur le profil des casseurs placés en garde à vue hier. On se demandera pourquoi les forces de l'ordre ont été débordées alors qu'elles étaient alertées dès lundi soir des risques de violence. À 18h20, notre invité, le député Front National, Louis Alliot. 18h30, l'analyse d'Alain Duhamel. Le débat dans Refait le Monde, ça sera après 19h15. RTL Soir, première édition, avec vous, Isabelle Choquet, je vous avais oublié, Isabelle,
alors,
avec tout ce
qu'est-ce
temps.
Qu'est-ce que c'est que ça? Je pars 10 jours et on ne me reconnaît plus. Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Bonsoir Isabelle, les titres de votre journal, Isabelle.
L'Europe veut mettre l'agriculture au régime. Bruxelles envisage de baisser le budget de la politique agricole commune d'environ 5%. Inacceptable, dit le ministre français Stéphane Travert, vous allez l'entendre. Il avait trompé tout le monde. David Rameau, qui a avoué le viol et le meurtre de la jeune Angélique, était retourné travailler le lendemain comme si de rien n'était. Ses collègues sont partagés entre révolte et incompréhension. À suivre également le stress maximum des étudiants dans les facs occupées. Les examens sont délocalisés. Le trajet est une première épreuve. Marseille dans les starting blocks pour une nouvelle finale européenne. J-1 avant le match à Salzbourg en Ligue Europe. Et puis adieu le petit bleu. Le dernier télégramme a été envoyé lundi soir. Stop. La bourse de Paris, elle termine en légère hausse de 0,16% à 5 529 points. Les courses à Saint-Galmier, il fallait jouer le 7, le 3, le 6, le 14 et le 8.
18h25, direction les coulisses de l'actualité. Sous les pavés, la radio, 50 ans après mai 68, RTL vous fait revivre ces folles journées comme si vous y étiez grâce à une radio éphémère composée uniquement d'archives. On vous amène en coulisses avant le top départ, ça sera demain 18h. 18h35, l'incroyable expédition d'Alban Michon. Depuis 2 mois, il traverse l'Arctique par moins 45 degrés. Il traîne seul en ski ses 2 traîneaux de plus de 70 kilos. À cause du froid, il a même perdu la vue pendant 2 jours. Ses cornets ont gelé. Alors avant de plonger sous la banquise, Alban sera avec nous depuis le nord du Canada. Bonsoir Patricia Charbonnier.
Bonsoir.
Encore de la fraîcheur pour demain avec un temps maussade dans l'est et le sud.
Oui, avec une nouvelle perturbation qui touche ce soir le nord-ouest du pic, est en train de gagner la région parisienne avec quelques pluies jusqu'aux Hauts-de-France. De la pluie également ce soir dans le sud-ouest. Et donc demain, cette perturbation va se décaler complètement vers l'est et le sud. Elle aura bien perdu de son activité, mais le temps restera nuageux toute la journée avec encore quelques pluies faibles près des frontières de l'est, entre le massif central et les Pyrénées, et encore beaucoup d'instabilité sur l'extrême sud-est, en particulier sur la Corse, avec là de fortes averses à caractère orageux. Ailleurs, ce sera un temps ensoleillé avec des températures comprises entre 2 et 15 le matin, 13 à 23 l'après-midi.
A tout à l'heure, Patricia Charbonnier.
RTL Soir.
Et ils avaient promis une journée en enfer. Les Black Blocs ont saboté le défilé du 1er mai. Ils ont plongé le gouvernement en pleine polémique. Isabelle.
La manifestation parisienne a été perturbée par environ 1200 militants radicaux. Ils ont laissé sur leur passage une trentaine de commerces saccagés et des véhicules vandalisés ou incendiés. Une centaine de personnes ont été interpellées. Bonsoir Olivier Bois.
Bonsoir.
Derrière ce nom Black Bloc, qui a-t-il exactement? Qui sont ces casseurs qui sont toujours en garde à vue ce soir?
Écoutez, il y a surtout de très jeunes gens, 60% des gardes à vue entre 18 et 30 ans. Vous avez en plus au moins 4 mineurs, le plus jeune à 17 ans, un tiers de filles, 2 tiers de garçons. Le profil commence aussi à se dessiner. Un policier qui en a vu défiler quelques-uns nous confiait qu'il n'avait pas franchement l'impression d'avoir affaire à des professionnels de la lutte armée anarchiste façon Black Bloc. On est plutôt sur un profil de jeunes, parfois étudiants d'extrême gauche, des gens qui ont pour un certain soutenu ou participé au mouvement étudiant. On nous explique par exemple qu'il y a des connexions avec certains de ceux qui ont été évacués de l'université Tolbiac il y a une dizaine de jours. Dernière indication, il n'y a que 5 étrangers toujours en garde à vue. Un Allemand, un Suisse, un Belge et un Colombien. Peut-être là qu'ils font partie eux d'un noyau plus dur de Black Bloc, mais c'est encore trop tôt pour le dire.
Et maintenant Olivier, que risque-t-il?
Les premières 24 heures de garde à vue sont en train de se terminer. Elles peuvent être prolongées d'autant, on va voir. Dans ce genre d'affaires, il y a souvent dans la foulée des gardes à vue les comparutions immédiates. Et l'enjeu maintenant, c'est de constituer des dossiers assez solides, avoir des images, avoir des preuves. Qui a fait quoi précisément? Sinon, c'est difficile d'obtenir des condamnations avec ce genre de contexte d'émeute ou tout est très confus.
Olivier Bois du service police-justice de RTL.
Les violences ont été condamnées par tous les syndicats et d'un bout à l'autre de l'échiquier politique, mais très vite, le ministère de l'Intérieur a été montré du doigt. Y avait-il assez de policiers? Pourquoi n'ont-ils pas réagi plus vite? Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, réclame une commission d'enquête parlementaire. Face à ce déchaînement de critiques, le gouvernement tente de calmer le jeu, Marie-Bénédicte Allaire.
Oui, et après la casse, le déminage politique. Le gouvernement s'y emploie aujourd'hui sur les lieux des affrontements ce matin. Gérard Collomb justifie au micro RTL de Nicolas Burnand le fait que la police n'ait pas bloqué les casseurs plus tôt.
Si jamais la police était intervenue brutalement sur le pont, il y aurait eu des morts. Nous, on veut éviter les morts. En même temps, il fallait les bloquer. Et vous voyez que finalement, les dégradations sont sur 400 mètres. Et on les bloque après.
On a évité le pire, explique donc le ministre de l'Intérieur, à qui Édouard Philippe a renouvelé sa confiance. Pour le Premier ministre, ces casseurs ont en réalité des visées politiques.
Nous avons en face de nous, depuis d'ailleurs de longs mois, quelques années même, des casseurs dont la volonté est de remettre en cause notre société et à certains égards notre démocratie. Il faut prendre en compte cette remise en cause avec beaucoup de fermeté, avec beaucoup de tranquillité aussi, beaucoup de résolution, et c'est l'état d'esprit dans lequel je suis.
Un phénomène qui ne serait pas nouveau, donc pas sûr toutefois que cet argument suffise à désamorcer les critiques de ceux qui parlent de manque d'anticipation.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL à 18h20. Je vous rappelle que notre invité, c'est le député Front National, Louis Alliot.
À l'étranger, l'ETA annonce aujourd'hui avoir dissous toutes ses structures. L'organisation séparatiste basque, formée en 59 sous Franco, a fait plus de 800 morts et des milliers de blessés dans des attentats en Espagne et en France.
La France se fâche tout rouge, Isabelle. L'Union européenne voudrait mettre la politique agricole commune au régime.
Oui, Bruxelles vient de rendre sa proposition de budget pour la période 2021-2027, autrement dit après le Brexit. Et il est question notamment de baisser d'environ 5% les fonds alloués à la PAC. Un coup dur pour les agriculteurs français qui sont les premiers bénéficiaires des aides européennes. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, dénonce un projet inacceptable.
C'est inacceptable. C'est une baisse drastique, massive et aveugle, qui va empiéter gravement sur le revenu des agriculteurs. Les agriculteurs, ils ont besoin de ces aides directes pour pouvoir vivre, pour viabiliser leurs exploitations. Et je suis en colère. À l'heure où nous portons la volonté d'un budget ambitieux pour la PAC, à l'heure où nous souhaitons transformer notre agriculture, nous avons besoin d'un budget solide et d'un budget qui puisse répondre aux besoins des agriculteurs et répondre aussi aux aspirations des consommateurs.
Concrètement, quelles conséquences directes pour les agriculteurs français ?
Eh bien, c'est une perte de revenus sans conséquence, impressionnante. Les exemples sont divers en fonction de l'activité des agriculteurs que nous pouvons connaître, mais cette part que l'on va enlever aux agriculteurs, elle va remettre en cause la viabilité de leurs exploitations.
Le ministre de l'Agriculture au micro RTL d'Élodie Guillard. À 19h, vous entendrez la première réaction de Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA sur RTL.
Va-t-on vers une nouvelle crise du beurre? Les boulangers sonnent l'alarme, les prix s'envolent à nouveau et les prévisions sont encore plus pessimistes que l'an dernier lorsque les augmentations avaient provoqué des pénuries dans la grande distribution.
Nous partons maintenant, Isabelle, dans le Nord, après le meurtre d'Angélique, après le chagrin, après la révolte. Il y a beaucoup d'incompréhension aujourd'hui.
L'homme qui a avoué avoir violé et tué la jeune fille de 13 ans est un récidiviste déjà condamné en 96 pour viol. Il était inscrit au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles. Mais cela, tout le monde l'ignorait, même dans son entourage. Franck Hanson, vous êtes retourné pour RTL dans son entreprise. David Rameau était chauffeur de bus chez Transpol, la société de transport de la métropole lilloise. Et visiblement, eh bien, jusqu'au bout, il a caché son jeu.
Oui, c'est dans ce dépôt de bus que David Rameau a été arrêté samedi matin. Le conducteur avait tranquillement repris ses activités après le meurtre d'Angélique. Et ses collègues sont encore très choqués.
On est tombé des nues. Il a toujours été discret, il a toujours été souriant. Il n'y a rien qui montrait qu'il aurait fait un crime aussi odieux. Un chauffeur comme tous les autres. Je dis, il était à la machine à café, il était tout à fait normal, comme si de rien n'était. Hein. Il n'y a rien qui, dans son comportement, qui laissait penser que la veille, il avait tué une gamine. Mais c'est impardonnable.
Recruté en 2014, malgré son passé judiciaire, ce chauffeur n'avait jamais fait parler de lui. En théorie, une société privée n'a pas légalement d'obligation de demander un extrait de casier. Mais Mohamed Faré, délégué CGT chez Transpol, attend des explications.
On s'interroge aussi sur les méthodes au niveau du recrutement, de savoir qu'il a pu rentrer dans l'entreprise en contact avec différents usagers, enfants ou des jeunes filles. Est-ce qu'il a dû remettre un extrait de casier judiciaire? Nous, on a dû en présenter un et apparemment, il semblerait que lui ne l'ait pas fait ou on ne lui a pas demandé.
Pour l'instant, la compagnie s'abstient de tout commentaire dans la mesure où le salarié a agi dans la sphère privée. Une cellule psychologique a été mise en place.
Dans le Nord pour RTL, Franck Hanson.
Bertrand Cantat ne chantera pas à l'Olympia. La salle a annulé les deux concerts prévus les 29 et 30 mai. Elle redoute des troubles à l'ordre public. L'ancien chanteur de Noir Désir avait déjà renoncé au festival d'été face à la colère des féministes.
RTL Soir, 18h10.
On va marquer une pause et dans un instant, la galère des examens entre fac bloquée et grève à la SNCF.
RTL Soir, 18h12, Marc-Olivier Fogiel et pour la suite du journal, Isabelle Choquet.
Et c'est la double peine cette année pour les étudiants, Isabelle. Certaines facs sont bloquées et en plus, il y a donc cette grève à la SNCF.
Le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le déblocage de l'université occupée depuis presque deux mois. À Nanterre, le blocage est reconduit jusqu'à lundi, ce qui fait planer une nouvelle menace de report des partiels. À Tolbiac, les examens de fin d'année commencent aujourd'hui pour trois semaines. Mais pour l'instant, le site, évacué il y a une dizaine de jours, reste fermé. Les épreuves sont donc délocalisées. Reportage RTL de Marie Guerrier à Rungis dans le Val-de-Marne.
En bruit de fond, les avions d'Orly et les bip-bip des camions qui chargent dans les entrepôts alentour. Comme une impression de bout du monde pour certains étudiants venus en transport en commun.
D'abord j'ai pris le train, ensuite j'ai pris le métro et ensuite j'ai pris le bus et je suis arrivé ici.
Ça ne s'est pas toujours passé comme prévu.
Le RERC ne s'arrêtait pas à Rungis la Fraternelle, mais s'arrêtait à Rungis le pont. J'ai 25 minutes de retard.
Tolérance pour ce premier jour d'examen, les retardataires sont acceptés, mais il valait mieux prendre ses précautions.
C'est énormément stressant, on se réveille très tôt, du coup on arrive, on est déjà fatigué.
Aujourd'hui, j'ai pris de la voiture.
J'ai pris un hôtel. Je suis à 10 minutes à peu près.
On est venu en Uber parce que c'était plus simple, plus rapide.
Vous sentez comment ?
Pas prête. On n'a pas eu de TD pendant un mois.
Oui, parce qu'avant les examens délocalisés, il y a eu le blocage de la fac.
C'est pas idéal. Je veux dire, on n'a pas eu beaucoup de cours et puis on sait pas trop à quoi s'attendre. Après, ils ont beaucoup réduit le programme.
Bon, je pense qu'ils vont en tenir compte. Puis on va faire ce qu'on peut. Hein.
Les épreuves s'enchaînent dans de grandes salles type hangar, placement libre, petite table et chaises de jardin.
C'est des chaises en plastique, ouais, mais ça va. À la fac, on est sur des petits strimpantins en bois, donc
ouais, c'est limite mieux, franchement. Juste voilà. Il faisait super froid, quoi.
On se les caillait à l'intérieur de malade.
Ça, c'était relou, mais sinon, ça va.
C'est déjà bien qu'on ait des locaux qui nous accueillent alors que la fac est fermée. Ils ont fait comme ils pouvaient.
À l'extérieur, quelques voitures de police patrouillent.
Les bloqueurs de Tolbiac, ils avaient prévu de venir ici.
Mais ils ne sont pas venus.
Reportage RTL signé Marie Guerrier.
Et ce sera sans doute encore plus compliqué demain puisque la grève reprend ce soir à la SNCF pour deux jours. Prévoyez un TGV et un Transilien sur deux, deux TER sur cinq et un Intercité sur trois. Le mouvement entre dans son deuxième mois. Chez Air France, 12e journée de grève demain. Légère amélioration du trafic, près de 85% des vols devraient être maintenus.
Et puis le football, J-1 pour Marseille qui est désormais tout proche d'une nouvelle finale européenne.
L'OM joue demain à Salzbourg en demi-finale retour de la Ligue Europe. Les Marseillais l'ont emporté 2-0 à l'aller. Alors sur le papier, cela semble plié, mais on n'est jamais à l'abri d'une remontada. Plus que jamais, les supporters joueront le rôle du 12e homme et ils sont chauds comme la braise. Chloé Gandolfo, vous avez assisté tout à l'heure au départ du car à la commanderie. Grosse ambiance.
Oui, devant la commanderie, j'ai croisé deux jeunes de 18 ans encore, les étoiles plein les yeux d'avoir eu la chance de venir supporter leurs joueurs en face à face. Léo, 16 ans, est encore très ému.
Voilà, c'est le club qui a le plus de ferveur dans la France et il faut bien le montrer, il faut le prouver. Voilà, on a la passion, il faut leur montrer. Ils ont signé à l'OM, il y a un certain engagement. Ils nous donnent du plaisir sur le terrain, il faut qu'on leur rende, il faut qu'on les motive chaque minute et chaque fois qu'on peut les voir.
Il a pu voir de près Luis Gustavo, Steve Mandanda et tous les grands de l'OM tout à l'heure. Nicolas, 18 ans, est plein d'espoir avant cette demi-finale.
C'était une très belle odeur. Les joueurs ont dû être... Je ne vois même pas les mots, je pense, pour eux. J'espère que demain, ils vont être concentrés, ils voient le combat et j'espère qu'on va avoir une éventuelle finale.
Léo et Nicolas sont malheureusement encore trop jeunes pour suivre leurs idoles jusqu'en Autriche, mais ils se sont promis de faire des déplacements ensemble très bientôt.
De Marseille à Janeiro, Luis Gustavo. De Marseille à Janeiro.
À Marseille, donc pour RTL, Chloé Gandolfo. Allez l'OM.
Et pour terminer, la fin d'un service plus que centenaire, les télégrammes n'existent plus. Voilà, on l'ignorait, mais en fait, le service continuait de fonctionner. Le mois dernier, par exemple, on en avait encore envoyé 1400 des télégrammes. Mais voilà, les mails et les SMS sont passés par là. Adieu le petit bleu, service fermé lundi soir, 23h59. Stop.
Stop, mais non, on continue, stop. Ou encore, comme dirait l'autre, on y revient dans le journal de 19h sur les télégrammes. A tout à l'heure.
À tout à l'heure.
On est à 18h30, les clés pour bien comprendre l'actualité. Après les violences donc d'hier, les questions aujourd'hui, lundi, la préfecture de police mettait en garde contre la présence de centaines de casseurs. On vous en parlait d'ailleurs dans le journal de 18h. Hier pourtant, les CRS n'ont pas pu éviter les incidents. Alors comment peut-on être alerté la veille et être dépassé le lendemain, Jean-Alphonse Richard ?
Alors, alerter, ça a été la mission de la direction du renseignement de la préfecture de police qui travaille sur les mouvements contestataires et connaît bien cette frange violente de l'ultra-gauche. 48 heures avant la manifestation, ce service a transmis ses premières informations faisant état de menaces précises. Puis la veille, à la mi-journée, une note très détaillée prévoyant la mobilisation annoncée de 400 à 800 individus violents qui annonçaient sur une messagerie internet de faire vivre une journée à enfer à la police et de s'en prendre à des agences bancaires, des certaines enseignes commerciales, tout cela donc était connu.
Et malgré ces alertes, donc Jean-Alphonse, le dispositif policier n'était pas adapté ?
Alors oui, on entre ici dans la phase du maintien de l'ordre. Il y a eu plusieurs réunions autour du préfet de police avec la sécurité publique, le renseignement, pour mettre au point le dispositif et arrêter la doctrine. 1500 hommes mobilisés, sauf que très vite, dès 14h, il a été constaté que ce nombre de policiers et de gendarmes mobiles allait être insuffisant, que le quadrillage de la zone était beaucoup trop lâche, avec des unités mal ou sous-employées. C'est le préfet de police, en accord avec le cabinet du ministre de l'Intérieur, qui avait validé ses choix. Trop tard pour réagir et réadapter le dispositif. 500 hommes supplémentaires auraient permis, nous dit-on, d'éviter le regroupement massif des casseurs auxquels on a assisté.
Et justement, y a-t-il eu des erreurs dans le maintien de l'ordre hier ? L'avis du premier invité d'RTL Soir, le député Front National, Louis Alliot. Merci Jean-François Richard.